Nova.
Dans le genre de
Chloé Delhomme.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône.
Dans le genre
femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Bonsoir et bienvenue dans ce 44e épisode. Je reçois ce soir Chloé Delhomme. Chloé Delhomme est écrivain, elle a publié à ce jour une trentaine de romans. La veine est le plus souvent autofictionnelle et l'univers marqué par la violence et la domination masculine. On découvre Chloé Delhomme en 2000, elle est brune, volontiers gothique et publie Les Mouflettes d'Atropos, un premier roman remarqué qui s'inspire en partie de son expérience de la prostitution. Et puis, un an plus tard, en 2001, donc, elle sort Le Cri du Sablier, un livre très fort, extrêmement violent, qui raconte la reconstruction d'une petite fille exposée à la violence extrême et meurtrière du père. On l'a également connue chroniqueuse, notamment dans Arrêt sur image, l'émission de critique des médias de Daniel Schneiderman. Et aujourd'hui, à 46 ans, elle sort Mes bien chères sœurs, un manifeste féministe en faveur de la sororité. Dans ce texte court, incisif, à la première personne, elle analyse à la fois l'époque actuelle, la révolution des mœurs à l'œuvre depuis MeToo et l'apparition de la quatrième vague féministe, mais aussi sa propre place d'écrivain, de femme, de féministe de 46 ans. On l'écoute en lire un extrait qui fait écho et reprend dans sa forme le King Kong Theory de Virginie Despentes.
J'écris de chez les vraiment toutes seules, les orphelines, les nullipares, les célibataires à Paris, celles sans attache ni branche qui dans le réel flottent, qui s'écrivent à la craie leur vie faite de falaises, qui ne savent pas qui prévenir en cas d'accident. J'écris de chez les sans-famille, celles qui doivent s'inventer chaque jour. De celles qui en rigolent, c'est une question de principe, la faiblesse est toujours une maladie honteuse. J'écris de chez celles qui ont des douleurs menstruelles effroyables, des bouffées de chaleur précoces, et qui n'osent plus s'en plaindre de crainte d'être traitées d'essentialistes. Celles qui culpabilisent de ne pas être assez fortes, celles qui ont mis longtemps avant de crever leur trouille, celles qui perçoivent une sœur au cœur de chaque transsexuel et admirent leur courage, au point de puiser dedans, devenir celle que je voulais, personnage de fiction. J'écris depuis 20 ans. En France, aujourd'hui, les écrivains, c'est seulement 30% de femmes. Le langage a toujours été une chasse gardée. Qui possède le langage possédera le pouvoir, la vérité des faits dans Lewis Carroll de l'autre côté du miroir. La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu'ils veulent dire. La question, riposta Humpty Dumpty, est de savoir qui sera le maître. Un point, c'est tout. Je suis maîtresse en ma parole et pour le partage du pouvoir. Le langage, le choix de chaque mot relève du politique. La question est de savoir comment s'en emparer.
Ce soir, je vous invite à passer une heure intense et un peu goth dans le genre de Chloé Delhomme.
Nova.
Dans le genre.
L'enfance.
Alors moi, j'ai vécu dans plusieurs familles consécutivement. J'ai d'abord été jusqu'à l'âge de 10 ans chez mon père et ma mère. C'était prof de français, capitaine au long cours, pour le milieu social, donc plutôt du middle. Par contre, c'était très violent. Enfin, mon père nous frappait. Et quand il a tué ma mère, après, il s'est suicidé. Là, nous sommes je suis partie habiter chez mon oncle et ma tante, où là, on est dans un milieu plutôt classe très moyenne, mais Front National au niveau des opinions politiques. Donc, comme je suis à moitié libanaise, c'était pas super pratique.
Ouais, donc vous avez fait l'expérience de la domination masculine extrême très tôt. Est-ce que vous pourriez définir aujourd'hui un petit peu les valeurs qui étaient attribuées au masculin et au féminin dans votre famille ?
Dans ma famille, le masculin était tout puissant. Il avait toujours raison. La force physique était là aussi. Après, chez mon oncle, c'était différent. Il avait toujours raison aussi, mais la femme était là pour le servir. C'était un couple qui s'aimait, mais qui était très, très dans la soumission de la femme. Elle éprouvait de la jouissance à être asservie, vraiment. Elle ne vivait que pour son bien-être à lui, lui apporter ses chaussons et faire la cuisine. Et surtout, elle ne pouvait pas penser par elle-même, même politiquement. Je veux dire, ça passait toujours par demander à mon oncle ce qu'il pensait de toute chose. Il n'y avait aucune autonomie chez la femme. Et je crois que ça m'a construite en creux, du coup. Je vivais ça très, très mal.
Et entre vos parents, vous diriez quoi ? Parce que là, vous parlez de votre oncle et votre tante.
Oui,
en fait, effectivement, les normes de masculinité et de féminité dans cette famille-là, c'était en continuité avec ce que vous avez vécu.
C'était en continuité avec ce que j'avais vécu avec mes parents, si ce n'est que ma mère était quand même, comme mon père était capitaine au long cours, il partait 3 mois. Et donc, du coup, on était seuls en autonomie absolue pendant les 3 mois avant qu'ils reviennent. Donc, elle était quand même plus indépendante que ma tante.
Elle était prof, votre mère ?
Elle était prof, oui. Donc, c'était quand même pas le même caractère du tout. C'était une personne qui était plus gaie, je dirais. Et puis, qui était un télo. Qui était un télo. Donc, j'ai été formée, j'ai eu la chance d'être formée par une personne qui m'a appris le rapport à la langue, qui m'a appris des choses formateurs. Mais par contre, sur le rapport féminin-masculin, on était vraiment dans des clichés, malgré tout, très très forts.
Donc, votre mère aussi, c'était une personne soumise, en tout cas, à cette autorité. Et vous écrivez dans le livre dont on va parler dans cette émission aussi, je ne sais pas si c'est du coup, que vous êtes construite contre les hommes.
Oui, ça, c'est lié à mon père, ça c'est sûr. C'est lié aussi à l'oncle après. C'est lié à la violence aussi de l'homme. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me mettais qu'avec des garçons qui physiquement ne pouvaient pas me faire de mal. Je prenais des corps très malingres en fait, inconsciemment. Esthétiquement, ça me plaisait bien, mais je crois qu'inconsciemment, ça jouait beaucoup. Et puis après, il y a eu l'expérience prostitutionnelle à la vingtaine, et ça, du coup, ça m'a construite encore plus contre. Hein. J'ai mis du temps à ne pas être misandre, ça c'est clair.
Et avant d'arriver là, en fait, je voulais vous en parler aussi, effectivement. Vous avez quel souvenir de vous, enfant ? Vous dites que le mot féministe, vous l'avez découvert en 5e.
Ouais.
Vous étiez quel type d'enfant ou préado, en tout cas ?
Enfin, j'étais une gamine un peu bizarroïde qui faisait de la sorcellerie, qui croyait beaucoup aux trucs magiques et du coup, j'avais pas tellement d'amis. J'ai pas souvenir de m'être entendue particulièrement avec les filles ni avec les garçons. Je veux dire, j'étais un peu
solitaire.
Très, ouais. Et puis j'ai lu tôt et je préférais les livres aux gens. J'avais vachement peur des autres enfants. Et puis je crois que comme j'avais un foyer dysfonctionnel, bah dès que j'allais regarder ailleurs, tout me paraissait bizarre. J'avais pas les codes sociaux en fait. Et à l'adolescence, j'étais gothique, donc j'étais sur-féminine, et puis du coup, je traînais plutôt...
Ça, c'était facile pour vous, l'acquisition de ces codes-là ?
Oui, très, très, très aisé. Pour moi, c'était fait pour moi, vraiment, les ongles longs, le noir, beaucoup de maquillage, jouer avec ces codes-là. J'ai toujours été à l'aise avec ma féminité, moi, ça a toujours été une évidence. Donc du coup, j'ai tendance à apprécier la notion de déguisement et de réenchanter le quotidien par les vêtements.
Alors on écoute un premier titre justement qui rappelle un peu votre adolescence, je crois, c'est un titre d'Echo and the Bunnymen, The Killing Moon. Alors pourquoi ce choix ?
Ah, c'est une des plus belles chansons du monde pour moi et c'est vrai, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter à l'adolescence avec cette espèce de sensation un peu de mal-être ado qu'on a où on est dans la douleur exquise, on jouit de souffrir un petit peu, enfin c'est un morceau sublime. Under a blue moon I saw you, so soon you'll take me up in your arms, too late to beg you or cancel it, though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will.
So soon you'll take me up in your arms, too late to beg you, or cancel it though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will.
Dans le genre de
Chloé Delhomme.
Donc c'était Equan de Bunnyman sur Nova, un choix de notre invité. Chloé, on parlait de vous un petit peu adolescente, et vous disiez que, vous en parlez dans votre livre aussi, que vous avez passé un peu votre adolescence au contact de garçons frêles, sensibles, dépressifs, incapables de massacrer autre chose qu'un morceau de The Cure. C'était un choix conscient, quelque chose de fuir un petit peu une masculinité qui pouvait faire peur.
Alors, d'un côté, je pense que j'avais un rejet esthétique aussi, mais parce que ça me faisait peur, c'est-à-dire tout ce qui est musculature, pilosité, tout ça, même encore maintenant, c'est pas du tout ma cam. Gamine, j'étais fan de Robert Smith, mais surtout de Nicolas Sirkis d'Indochine. Donc du coup, je crois que ça jouait beaucoup. Après, il y avait la construction creux, qu'effectivement, il fallait pas qu'ils aient un physique potentiellement violent ou trop défini. J'aimais les garçons androgynes, et ça a un petit peu évolué, mais pas tellement, en fait, je crois, dans mes goûts, vraiment. Après, j'ai pas d'appétence pour les traits virilistes, hein, chez un homme... C'est pas quelque chose qui me fascine, et c'est vrai que ça me fait encore un petit peu peur, je peux pas le nier.
Et vous disiez, la féminité c'était facile, c'était fait pour moi en fait, adopter ces signes-là en tout cas, mais vous disiez, ça m'intéressait pas mal, vous avez mis du temps à arriver à vous construire, pas contre les hommes justement.
Oui, c'est-à-dire que autant les codes de la féminité c'est une chose, après se déplacer dans les... Enfin, avoir un rapport de femme en tant que femme, c'est encore autre chose, et autant j'avais des facilités avec les codes, autant avec ce qu'on attend d'une femme et trouver sa place, ça a été plus compliqué à construire, ça a été plus long. J'ai été longtemps réfugiée dans le statut de la schtroumpfette, être la seule fille de la bande de garçons. Comme ça, on prend pas trop de risques non plus, d'une certaine manière. Et du coup, j'avais pas un rapport développé super avec les filles, ça a mis du temps, ça.
Vous aviez pas trop d'amis filles
À l'adolescence, j'avais comme beaucoup la meilleure copine fusionnelle, et puis comme ça s'est mal terminé, que ça m'a fait une blessure comme une blessure d'amour, comme souvent dans ces cas-là. Après, j'ai été pendant longtemps assez méfiante envers les amitiés féminines, ce qui m'a coupée des femmes pendant longtemps, en fait, je pense.
Donc vous aviez des amis garçons.
J'avais surtout des amis garçons gothiques et beaucoup de garçons gays. Ça, c'était vraiment. Je suis un peu une fille à tata, moi.
Dans le bouquin aussi, vous décrivez une scène, on imagine d'une adolescence, enfin d'une jeune adolescence, la peur de se faire coincer.
Oui, alors ça c'était très fort dans mon collège, les garçons nous coinçaient, donc ils nous coinçaient contre un mur et ils nous tripotaient de force. Et ça a été, pendant toute mon année de cinquième, une vraie terreur, une terreur un peu comme peuvent avoir les enfants avec le harcèlement à l'école ou quelque chose comme ça, parce qu'on savait qu'on allait y passer. Quand il y avait gym, c'était encore pire que tout, et c'était 3 heures par semaine, le PS au collège. Et ça m'a laissé un souvenir de forme de violence super, super fort. Même s'il y avait éventuellement au maximum un doigt, je l'ai vraiment vécu. Et en plus, à l'époque, on ne mettait pas les mots harcèlement, agression. Tout le monde se faisait mettre des mains au cul dans la joie et la bonne humeur. Et à la rigueur, on était une pimbèche et on était choqués par le fait, quoi. Et ça a été assez constitutif aussi, le côté... On a comme si le corps de ma mère avait été à disposition du père pour la mort et avant pour les coups. Et là, d'un seul coup, le corps des jeunes filles était à disposition pour les petits prédateurs du collège. Et ça, c'est un truc qui fait aussi que dans mon rapport un peu violent à l'homme, c'était problématique après.
On écoute un autre titre que vous avez choisi, c'est un titre de Flavien Berger, « M'a dit la nuit ». Thank you.
absence sont mes ténèbres. On m'a dit, refaisons la paix, on parle en feu de Bengale. Quand vient l'aube, tu disparais, ne me laissant que tes sandales.
Chloé Delhomme.
Voilà, c'était Maddy la nuit de Flavien Berger sur Nova. C'est un artiste que vous aimez beaucoup?
Oui, j'aime beaucoup. Bah, moi, j'écoute beaucoup de synthé-pop ou d'héritage de la New Wave, donc tout ce qui est les Scope, Grand Blanc, voilà, Flavien Berger en plus pop ou mignon. C'est cette scène française m'intéresse beaucoup, oui.
Alors, on parlait un petit peu tout à l'heure, vous parliez de Nicolas Sirkis brièvement. C'était quoi justement les modèles d'identification masculin, féminin qu'il y a eu pour vous à l'adolescence? Est-ce que vous les trouviez dans la musique ou est-ce que déjà la littérature ça comptait pour vous aussi?
Ah non, dans la littérature, à part Colin de l'écume des jours, et encore, c'était un peu trop éthéré les traits pour pouvoir faire. Un blocage dessus.
Ouais, c'est à cause de ce roman d'ailleurs que vous allez prendre enfin, votre prénom, en tout cas Chloé, donc le nom de l'héroïne de L'écume des jours.
Ça a été très très important pour moi, mais au même âge, moi c'était vraiment vraiment la musique, donc c'était vraiment Jim Reid de Jesus and Mary Chain, enfin voilà, des grands dégingandés, tous mes grichons. Et vraiment, pas exclusivement, mais quand même, mon blocage sur Nicolas Sirkis a bien duré plus d'une décennie, donc.
Pourquoi il vous fascinait, Nicolas Sirkis?
Je sais pas, physiquement, il y avait un truc, il correspondait complètement à cette espèce de côté Peter Pan ou quelque chose comme ça. Et puis, je suis tombée dans Indochine à l'été de la mort de mes parents, en fait, aussi. Donc, il y avait un truc un peu vivace, un peu de.
Donc, c'est 83-84.
Voilà,
par là, ouais,
ouais, ouais. Voilà. Et du coup, c'est un groupe qui, moi, m'a complètement constituée et puis maintenant, ça m'est arrivé d'écrire des paroles pour eux. Donc, la boucle est magistralement bouclée. Mais, je sais pas, il y avait quelque chose, je trouvais sexy, quoi. Incroyablement sexy. Et du coup, je crois que je sortais avec des gothiques pour retrouver des ersatz de Nicolas Sirkis. Mais c'est un âge où beaucoup de gamines font ça avec leur rocker préféré.
Hein. Et est-ce qu'il y a des images de féminité qui vous fascinait?
Alors, pas tellement en fait, gamine. Et après, ça a été Solanas très très tôt.
Valérie Solanas.
Vers 16 ans, quand j'ai lu ce comme manifesto.
Qui était une activiste féministe qui ensuite a été...
Misandre, qui a tiré sur Andy Warhol et qui a écrit le Scum Manifesto, une pièce de théâtre qui s'appelle Obturas. Et c'est... Elle est pour l'abolition de l'argent, elle est pour l'automation et surtout pour la suppression du sexe masculin. Et c'est vrai qu'à 16 ans, ça a été une lecture très très fondatrice. Je me suis dit, c'est fou, il y a quelqu'un qui y a pensé. Et puis elle pense plein de trucs amusants, elle a fait des études de biologie, donc elle considère que le chromosome manquant de l'homme en fait est un signe, que c'est un avorton dégénéré, enfin elle est assez amusante dans son approche. Et ça c'était une figure forte. Après sur les identifications, j'étais que sur Suxi and the Bunchies, donc évidemment pour le look, et j'ai gardé une fascination pour Armand Altaï quand même. Qu'il faut que je reconnaisse et que j'assume parfaitement. Ah ouais. Je trouve cette femme complètement fascinante et fabuleuse, avec tous ses cheveux et toutes ses dentelles et ses petites poses et ses mous. J'aime beaucoup, oui.
Ouais, elle est super originale.
Oui, c'est une Arielle Dombasle qui a bien tourné.
Dans le genre de.
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre. Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Musclé. Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours dans le genre de l'écrivain Chloé Delhomme. Elle vient de publier « Mes bien chères sœurs », un texte court, incisif, qui documente l'éclosion de la quatrième vague féministe, qui aussi en manifeste en faveur de la sororité. Alors, on va en parler pas mal au cours de cette émission. Avant, on écoute un peu de musique, un artiste qu'on aime beaucoup sur Nova, c'est Malik Djoudi avec Tempérament.
J'les ai ample jean. J'aime la vie. J'aime les gens. Tant que mon tempérament se désiste. Des eaux troubles en tétante, tant que mon tempérament j'hésite. Je cherche mes pires. Certains jours, je perds mon temps. Quand mon tempérament seul résiste aux autres.
Voilà, Voilà, c'était Malik Djoudi, Tempérament sur Nova. On est toujours avec Chloé Delhomme. Donc Chloé, vous sortez, on le disait, Mes bien chères sœurs. Donc un livre, comme je le disais, très direct, comme un appel. Et c'est un livre qui fait le point, je trouve, à plein d'égards. C'est-à-dire le point sur l'époque dans laquelle on vit, une espèce de radiographie, comme ça, un petit peu, de la révolution à laquelle on assiste. Et également, un point sur vous, je trouve, en tant qu'écrivain, en tant que femme, en tant que féministe. Et j'aime beaucoup la position que vous prenez dans ce livre, qui est vraiment d'exprimer l'endroit depuis lequel vous parlez, en fait. Ce qui est aussi, je pense, un apport féministe, en fait, hein, de la troisième vague féministe. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de parler comme ça dans ce livre et de reprendre, dans vos propres mots, le début du texte de Virginie Despentes, de King Kong Theory, J'écris de chez les moches, que vous avez adapté dans vos propres mots. Alors, pourquoi c'était important, tout ça?
Je crois que j'avais du mal à prendre la parole en tant que femme qui n'était pas issue d'une minorité. Pendant longtemps, ça m'a travaillé, ça, parce qu'avec la troisième vague et qui casse la binarité, c'est vrai que c'est les courants intersectionnels.
Donc la troisième vague, c'est la troisième vague féministe qui est arrivée au milieu des années 80, des États-Unis, beaucoup avec des études de genre et des minorités, et qui ont apporté un nouveau regard et de déconstruction du patriarcat.
Capital, ouais. Tout voilà. À fait. Mais c'est vrai que du coup, en tant que femme blanche, cis, plutôt effectivement à l'aise avec ces questions-là, il a fallu attendre MeToo pour que Madame Tout-le-Monde se lève, en fait. Jusque-là, j'avais du mal. Je me sentais trop majoritaire. N'ayant pas été violée, n'ayant même pas avorté, j'avais l'impression que j'avais pas vraiment voix au chapitre. Alors que pourtant, j'étais comme tout le monde, témoin dans ma chair depuis longtemps du sexisme ordinaire qui a lieu dans ce pays. Et du coup, ça m'est venu aussi parce que j'ai fait une résidence d'écriture chez Violette & Co, la librairie féministe rue de Charonne. Et là-bas, j'ai développé un travail qui s'appelait Liberté, Parité, Sororité. Du coup, c'est au terme de ça aussi que je me suis dit, bon, allez, maintenant, on est armés, on va la prendre, cette parole, et on va essayer aussi de trouver des mots pour dire ce qui se passe. Après, parler de mon endroit, c'est vrai que l'intime, c'est de la littérature, et je voyais pas trop quel autre angle prendre pour parler, en plus, faisant de l'autofiction habituellement. Mais c'est étrange de voir comme j'ai mis du temps, moi qui l'ouvre habituellement assez facilement, à me positionner en fait dans le champ. MeToo a vraiment fait du bien.
Oui, c'est un livre dans lequel vous revenez sur pas mal de vos expériences, que ce soit effectivement la prostitution, donc vous êtes prostituée pendant 3 ans, après avoir arrêté vos études de lettres, je crois, juste avant de commencer à écrire. Comme si finalement, enfin, et pas que comme si, enfin, aussi, c'est être une femme, c'est cette multitude d'identités, c'est pas une chose linéaire, pleine, et je crois que c'est quelque chose qui est important aussi, ça, non ?
Oui, c'est très important qu'on voit qu'on multiplie les surfaces d'action, en fait, que c'est une somme. Que, au même titre, s'il y a des féminismes pluriels, chaque femme est une femme plurielle. Je pense que ça, c'était important de remettre dessus. Et après, il y avait aussi un petit côté bilan, parce que j'ai 46 ans, enfin, j'en avais 45 cet été quand j'ai fait le livre. Et il y a un côté. C'est inédit pour. Enfin, c'est inédit pour soi, c'est assez logique, vu que. Mais disons que je me retrouve confrontée à la question de la femme de 45 ans, de ce que c'est dans la société.
C'est quoi alors ?
C'est pas grand-chose en fait.
La femme hétérosexuelle de
45
ans.
La femme hétérosexuelle de 45
ans. Ça change en orientation sexuelle, peut jouer.
C'est tout à fait. La femme hétéro de 45 balais, elle vaut pas grand-chose sur le marché.
Elle est exclue du marché de la bonne meuf.
Elle est exclue du marché de la bonne meuf qu'on fait Yann Moix récemment. Et puis, indépendamment de ça, il y a une sorte de. Il n'y a plus grand chose à. Si on n'est pas en place, si on n'a pas acquis sa place, c'est un peu foutu. Il y a un peu cette sensation-là. Déjà que la femme est super précaire en sa place. Mais j'ai l'impression qu'à 45 ans, je vois autour de moi aussi. Alors, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de nostalgique. Je ne fonctionne pas avec les notions de regret. Mais on peut avoir on a suffisamment de recul pour voir aussi les possibles qu'on n'est pas allé chercher. Donc du coup, il y a un côté irrévocable à plein de niveaux qui est nouveau quoi, à 45 ans. Et puis il y a le côté deuxième partie de vie, parce que 45 ans, moi je sais très bien qu'avec ce que je fume, je vais pas tenir jusqu'à 90, donc je sais que j'ai dépassé, que je suis vraiment en dernière partie. Et ça change aussi le rapport à l'urgence, le rapport à plein de trucs.
Et quand vous dites, on est à 45 ans, on n'est plus grand-chose, c'est-à-dire, dans le regard masculin, on n'est plus grand-chose ?
Dans le regard masculin, on n'existe vraiment plus tellement.
Vous l'avez senti, ça ? C'est-à-dire,
Il n'y a pas très longtemps, ça m'est arrivé à un salon du livre où j'étais à un dîner, un peu avec des gens sans faire exprès, enfin, on est des tablés comme ça. Et en fait, il y avait une petite choupette de 25 ans, et en l'espace de quelques secondes, j'avais beau tenir des propos sensés, et j'étais pas du tout sur un mode de séduction, j'ai vite vu le zappage en direct, et c'était la première fois de façon aussi, enfin avec des inconnus, donc c'était flagrant. Et effectivement, ce serait pas arrivé il y a 10 ans, un truc comme ça.
D'avoir l'impression d'être un peu invisible.
C'est ça, l'invisibilité de la femme de 45 ans, c'est exactement ça. Ouais.
Je voulais vous poser une question par rapport à vos années de prostitution, en fait, pour savoir si aujourd'hui, quel regard vous portiez là-dessus. Ça m'a fait penser à ce qu'avait écrit Virginie Despentes dans King Kong Theory. Bon, elle en parle par rapport au viol, parce qu'elle avait été violée, et que finalement, chaque billet, c'était une façon d'aller rechercher une dignité. Ça a été quelque chose de très actif pour elle, en fait. Et ça allait à contre-courant de beaucoup de clichés qu'on peut avoir sur la prostitution. Je voulais savoir si vous saviez ce que vous aviez été y chercher.
Oui, tout à fait. La prostitution, je suis allée chercher la confiance en moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me souviens très bien de mes premières passes, alors c'était très bien payé, c'était en francs à l'époque, nous étions dans un bar dans le 16e arrondissement, et c'était 2000 francs la passe et 1000 francs la pipe avec capote en plus, et le mec devait prendre une bouteille qui coûtait 1000 euros, donc on a affaire à une clientèle très très haut niveau. Et la première fois que j'ai été payée pour ça, j'ai eu la sensation, un truc de gratification. Enfin, quelque chose de... Mon corps valait, j'avais une valeur, parce que j'avais un énorme problème avec ma valeur. Et en fait, moi, ça m'a permis de prendre conscience que j'avais de la valeur en tant que corps féminin, en fait. Parce que j'avais vraiment pas du tout confiance en moi sur le physique et sur tout le reste. Et ça m'a apporté de la force, mes années de prostitution, en fait. Après, comme j'habite pas mon corps, moi, c'était fastoche, parce que j'allais me promener pendant que je me faisais sauter aussi. Donc, j'avais un avantage dans mon handicap mental, mais...
Et vous aviez une distance par rapport à
votre... J'avais une très grande distance.
Une capacité à se désolidariser de son corps.
Oui, la désolidarisation, c'est un vieux truc d'enfant battu. C'est ce qu'on apprend pour éviter les coups. Donc, du coup, j'avais qu'à réactiver. Donc, moi, ça me coûtait pas tellement, hein, comme travail. Et puis surtout, j'avais l'impression d'être infiniment moins aliénée qu'à la caisse de Carrefour.
Et c'est après ces années-là que vous êtes devenue écrivain.
Oui, j'ai commencé les mouflettes d'Atropos pendant que je travaillais au bar. Et puis quand il a été publié, j'ai continué un tout petit peu. Puis après, j'ai arrêté. La littérature a pu...
Subvenir à vos besoins.
Exactement.
Assez rapidement.
Voilà.
Alors c'est un livre, donc on disait qui opère un peu une radiographie de l'époque aussi, hein, donc la fin d'une ère, le début d'une nouvelle ère, enfin on peut espérer. Donc vous écrivez le patriarcat bande mou, on est dans l'apocalypse d'après Weinstein. Alors c'est quoi les signes de cette révolution et par quoi elle passe ?
Alors, c'est une révolution qui passe par les mœurs, contrairement aux révolutions précédentes. C'est pour ça que je suis aussi optimiste, parce que je pense que vu que ça passe par les mœurs, c'est chacune... Et chacun aussi, parce que les prédateurs sont pas majoritaires dans ce pays. Et c'est une révolution qui passe vraiment par la fin d'un certain nombre de comportements, en fait. Et surtout la fin de l'impunité. Et ce qui se passe, par exemple, dans les rédactions françaises en ce moment, pour moi, c'est un signe très fort.
Vous faites référence à la Ligue
du LOL. Et au remplacement.
Mises
à pied qui ont eu lieu, et après les mises à pied, des remplacements de postes par des femmes, et en plus des femmes féministes, ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc ça, c'est un signe fort pour moi, et indépendamment de ça, on voit bien qu'il y a eu avec MeToo, avec Balance ton porc, une prise de conscience vraiment générale et générique, et je pense que les femmes maintenant sont conscientes qu'elles sont majoritaires à penser qu'il y en a marre. Et elle voit que ça tombe et que ça n'a pas de raison que ça reste debout. Et donc du coup, il y a une espèce de grand mouvement, de grande déferlante là, qui a lieu et qui, moi, me laisse présager du meilleur pour les 10 ans qui viennent. Parce qu'il y a aussi la fin de certaines générations. C'est-à-dire que dans les comportements porcins, on a quand même majoritairement le old school. Et il s'avère que ces gens-là sont proches de la retraite, donc vont pas tarder à déserter l'échiquier social. Et le cimetière des éléphants passés, on aura déjà un peu plus la paix. Après, pour pouvoir respirer vraiment, il faut que l'éducation soit faite et puis qu'on lâche pas l'affaire pour les générations qui sont en place déjà. Moi, j'ai bon espoir pour un truc très con, c'est que quand je vois le changement sur le mariage pour tous... en l'espace de si peu d'années, ce que ça a pu apporter, je me dis qu'il n'y a pas de raison pour le féminisme, ça ne soit pas la même chose.
Avec des résistances énorme. De la société énormes.
Énormes, mais en même temps, je pense que ça peut se faire petit à petit et assez rapidement dans ce petit à petit. C'est un travail de fourmi, mais il y a des milliers de fourmis là, qui sont en action, donc j'ai plutôt vraiment bon espoir.
Parce que vous pensez justement que les mœurs, finalement, auront plus d'efficacité que les législations. Parce qu'on parlait évidemment, on parlait de la Ligue du LOL, on parlait de choses dans le monde du travail, de harcèlement. Il y a aussi la question vous avez très bien connu, des violences domestiques. La France, c'est toujours un pays avec des chiffres effrayants. Je ne les ai plus en tête, mais vous...
Il y a une femme tous les deux jours. Maintenant, avant, c'était tous les trois jours.
Maintenant, c'est tous les deux jours.
Et depuis janvier, on est passé à une femme tous les deux jours qui meurt sous les coups de son conjoint. Ouais.
Voilà, donc c'est des chiffres qui sont hallucinants.
Qui sont hallucinants.
Et voilà, et terrible. Et vous pensez que ça va être par une révolution des mœurs qu'on va pouvoir modifier ces comportements-là ?
Je crois, parce qu'en fait, il a été démontré sociologiquement que en sexisme, avant d'en arriver à l'uxoricide, donc au décès...
Donc l'uxoricide, c'est le meurtre de l'épouse.
De l'épouse par le mari. Et pour en arriver là, avant, il y a tout ce qui est sexiste, c'est une grande chaîne où tout est imbriqué. Donc en fait, la plus petite violence sexiste orale creuse le sillon et a de l'incidence. Donc si on commence vraiment à la base, et cette base-là, la législation ne peut pas grand-chose. On va pas empêcher les mecs de faire des commentaires sexistes, des blagues sexistes, juste commencer à ce niveau-là. C'est pas la législation. On est beaucoup trop dans la sphère privée pour que ça intervienne. Donc je pense que ça passe vraiment, oui, par ce grand cercle de mœurs au début.
On écoute un peu de musique, c'est un titre que vous avez choisi pour nous, vous en parliez, c'est Grand Blanc, Degré Zéro, on écoute ça.
Genre 2.
Chloé Delhomme.
Voilà, c'était Grand Blanc sur Nova, Degré Zéro, un choix de notre invitée Chloé Delhomme. Alors Chloé, on parlait de votre livre « Mes bien chères sœurs » et de cette libération de la parole et cette quatrième vague féministe un peu qu'on est en train de vivre. Cette quatrième vague, vous la décririez comment en fait ? Vous avez déjà dit c'est un mouvement de masse, mais qu'est-ce qu'elle a de différent finalement des précédentes ?
Elle est apparue par les réseaux.
Ouais.
C'est le féminisme 2.0 et ça c'est vraiment inédit. C'est un féminisme où la corporalisation ne rentre pas en ligne de compte. C'est-à-dire que ce qui a fait aussi la solidarité des femmes et la libération de la parole, c'est que quand dans les cercles de parole ou quand dans la vraie vie, une femme victime explique qu'elle s'est fait agresser, violer ou abuser ou harceler, il y a le regard sur elle qui est posé, il y a un jugement. Il y a le « mais n'y est-elle pas pour quelque chose » qui quelque part trotte dans un coin de la tête. Avec les réseaux, ça a été accepté directement. Ça a été pris, la parole toute puissante, en fait, la vérité toute puissante. Comme si on avait confiance dans l'ami inconnu. Et ça, ça m'a paru vraiment inédit. En plus, il y a aussi une prise de conscience qui est passée par les réseaux ou Internet en général. En 2010, pour moi, ça commence avant. Ça commence dès 2010 avec Paita Schneck, où en fait, Anaïs Bourdet mettait tout ce qu'on entendait dans la rue sur Internet. Et ça, ça a été très important parce que toutes les filles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas seules, parce que c'est pas des discussions qu'on a entre copines de se dire, au fait, aujourd'hui, je me suis fait agresser et toi. Maintenant, on en parle, mais avant, c'était juste, bon, bah non, ça va pas très bien, j'ai croisé un relou, mais bon, hop, vite fait passé, quoi.
Et la question aujourd'hui, justement, c'est de dire, et que vous la posez dans votre livre, c'est-à-dire, bon, bah, l'ennemi, entre guillemets, enfin, en tout cas, ceux qui posent problème, il est commun, il est désigné, ça fait bien longtemps qu'il a été désigné par les féministes, même. La question, c'est pourquoi, jusqu'à présent, il n'y avait pas de riposte à ça, d'avènement d'un pouvoir féminin qui se mettait en place. Et vous, ce que vous dites dans votre livre, c'est que le problème, c'est que c'était la désunion. Et donc, aujourd'hui, une des pistes, ce serait... la sororité, justement.
Oui, j'y crois très très fort, justement, parce que par la sororité, on a un mouvement horizontal, on n'est plus dans la verticalité du pouvoir, on ne propose pas un matriarcat à la place du patriarcat, et c'est des types de liens qui sont accessibles et faisables, puisque comme c'est une révolution des mœurs, c'est chacune dans son intimité et dans son privé qui doit agir. Or, la sororité, c'est juste faire preuve chacune en se disant, bon, je suis pas à l'aise en ma place, j'ai peur, d'accord, mais je vais faire confiance à l'autre fille, je vais être dans un pacte de neutralité, de non-agression, et surtout, je m'engage quelque part à faire corps avec les autres femmes dès qu'il y a une violence sexiste, dès qu'il y a un propos déplacé, dès qu'il y a une agression potentielle. Et du coup, ça rend beaucoup plus forte. C'est vraiment faisable. C'est pas aussi compliqué que le communisme.
Ouais, mais pour l'instant, on en est loin. Hein. Moi, j'ai très envie d'y croire, mais dans le monde professionnel, moi, ce que j'ai pu observer jusqu'à présent, c'est pas forcément ça. Ça existe parfois, mais il y a aussi beaucoup de rivalités. On est parfois plus proche de showgirls que...
Oui, c'est pour ça que le plafond de verre subsiste. C'est aussi qu'on n'est pas... On est aussi responsable. C'est-à-dire que le patriarcat qui désunit les femmes, évidemment, oui, d'accord. Mais à un moment donné, on est chacune responsable. Et je parle d'autant plus de ma place que vraiment, moi, c'était pas évident avec les meufs à l'époque. Quoi. Donc, ça a demandé un boulot. Moi, ça m'a demandé un travail de me dire que...
Qu'est-ce que vous voulez dire, pas évident ?
Bah, j'étais beaucoup dans la rivalité avec les autres
ah oui
filles parce que j'étais super précaire en ma place et parole. Donc, du coup, toute fille qui arrivait sur le territoire, j'avais l'impression que mon identité pouvait être prise par une autre. Enfin, vous voyez, j'avais pas assez d'assurance. Et en fait, j'ai l'impression que c'est 99% des raisons pour lesquelles on agit comme des biatchs, quoi. Donc, donc je pense qu'il est temps de faire preuve un peu d'éthique de vie. De se dire que c'est nécessaire pour péter le patriarcat qui nous rend toutes malheureuses, qu'il faut en passer par là parce que c'est une arme, et donc on va s'armer pendant quelques temps, et que pendant quelques temps on va mettre en sourdine le petit égo de Schtroumpfette, et on va aller voir la copine pour s'allier et être plus solide et solidaire, parce que c'est la seule chose qu'on n'ait pas essayé en fait.
Oui, et c'est un état, vous dites, il faut presque accepter de se faire violence dans un premier temps pour
oui
arriver à cet état-là.
Oui, oui, parce que alors c'est pas non plus la chrétienté, je veux dire la sororité, on donne pas ça la joue gauche non plus, mais il faut, c'est un état conscient, donc c'est pour ça que je pense que ça peut marcher justement parce que c'est volontariste quoi.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le Badaboum Manifesto?
Ah, le badaboum. Alors, le badaboum, c'est quand vous vous trouvez en présence de propos sexistes, au lieu de monter sur vos grands chevaux ou de vous mettre la tête dans le sable, vous souriez, vous regardez la personne et vous lui dites badaboum. Et alors, toute seule, ça fait un peu bizarre. Ça marche pas très bien toute seule. Mais à partir de deux joueuses, ou de trois, c'est encore mieux, là, c'est efficace parce que la personne qui a fait la sortie de route se rend compte du dysfonctionnement de son discours, et je pense qu'il faut trouver des façons humoristiques de neutraliser l'adversaire, sinon on s'en sort pas. On a essayé le frontal, on passe pour des hystériques, donc il faut trouver autre chose, il faut surtout pas lâcher l'affaire, mais il faut trouver d'autres stratégies, et je pense que la stratégie de l'humour est peut-être la plus efficace qu'on puisse avoir.
Oui, donc pas adopter des codes de pouvoir masculins et des codes d'aller sur des rapports de force.
Ouais, mais... surtout pas, parce que là, c'est devenir une matrone, une mamatrone à la place du papatron. C'est prendre la place de l'homme en son lieu. Enfin, il faut pas ça. Faut essayer de trouver un truc, un pas de côté, quelque chose qui soit plus doux et plus léger aussi. Je crois, ça désarçonne beaucoup plus parce qu'ils ont pas les mêmes armes.
Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes arrivé à apaiser justement ce rapport avec le masculin ?
Bah maintenant, oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Après, le fait est que je suis célibataire maintenant. Donc...
Il n'y a peut-être pas de lien de cause à effet.
Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis vachement plus apaisée maintenant, c'est sûr, mais en étant en plus toute seule. Mais oui, ça m'est passé. Après, bon, il faut dire aussi que dans le parcours, j'ai eu deux maris et pas mal de petits amis à long terme. Donc ça, j'ai une fille aussi. Enfin, en tant que compagne, pas en tant qu'enfant, je suis nullipare vraiment. Mais le parcours de vie fait que je n'ai pas le même rapport. J'ai toujours défiance et... forme d'agressivité rentrée, je dirais, pour les prédateurs, pour les mal-alpha, j'ai toujours beaucoup de mal à communiquer avec, même si du coup j'essaye de trouver des techniques pour les neutraliser. Après, avec les hommes en général, c'est beaucoup plus fluide qu'avant, oui.
Et vous avez jamais désiré être mère, en fait ?
Non, ça m'est vraiment jamais... Je me souviens très bien que déjà, dès le lycée et le collège, quand on se transposait dans notre vie d'adulte, moi, je voulais pas d'enfant. J'en ai vraiment jamais voulu.
Oui, parce qu'il y a un chapitre que vous consacrez dans votre livre à cette question,
ouais.
En disant que c'est quand même un lieu d'aliénation, en fait, un petit peu.
Oui, un petit peu.
Vous pensez, enfin, qu'est-ce que vous...
Bah, expliquez un peu. Je pense que c'est un point d'aliénation. En plus, moi, je ne suis pas tellement pour la reproduction, et même pour des raisons écologiques, on va dire. Et puis, il y avait aussi, après, je serais de mauvaise foi si je disais que c'était qu'un choix politique. Il y a aussi le côté personnel, c'est-à-dire que j'ai un héritage génétique qui n'est pas super entre le père schizo et moi qui suis bipolaire. Et puis, la fragilité sociale aussi. Et puis, j'aime pas les enfants. Enfin, les enfants. Après, le côté, oui, mais quand c'est les tiens, c'est différent. Tout ça, pour moi, c'est des conneries parce que j'ai vraiment d'abord, je suis tocophobe, donc j'ai une phobie des femmes enceintes et de tout ce qui touche l'accouchement. Ça peut me faire limite tomber dans les pommes, même des récits, une échographie et j'ai la baffe qui monte et je me sens pas bien. Donc, c'est mal barré. Et puis, les petits enfants, ça m'intéresse pas du tout. Ça me fait un peu peur. Ça me met très, très mal à l'aise. Et la transmission, j'ai trouvé maintenant que j'ai l'âge de transmettre, je donne des cours de creative writing et du coup j'ai mon angle où je suis pas frustrée dans la transmission d'un savoir à quelqu'un d'autre, quoi. Donc du coup j'ai l'impression que j'ai vraiment fait le bon choix parce que je suis bien, y a pas de frustration, quoi.
Alors on écoute un titre que vous avez choisi, Chloé Delhomme, c'est un titre de Cocteau Twins, Ivo. Pourquoi ce choix ?
Bah, c'est pareil, les musiques un peu féeriques que j'écoutais à l'adolescence et que j'écoute toujours maintenant. C'est très beau, c'est printanier, ça met de bonne humeur.
Voilà, c'était les Cocteau Twins sur Nova. Vous êtes toujours avec Chloé Delhomme. Chloé, quel rapport vous entretenez avec votre physique ?
Ça va mieux. Enfin, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai pu prendre jusqu'à 15-20 kilos et les reperdre et les reprendre. Donc, disons que je joue avec le côté petite ou grosse dondon. Ça dépend des jours. Mais ça va. Ça ne m'indispose pas. Enfin, je n'ai pas un rapport à l'image hyper développé. Je ne fais pas de selfie. Je suis très peu prise en photo. Je me maquille comme un pot de peinture. Sinon, je ne peux pas sortir. Mais ça, c'est depuis mes 15 ans. Donc...
Ah ouais, vous maquillez tous les jours ?
Je me maquille tous les jours, limite même à la maison, ouais, je me maquille tous les jours, mais non, ça va, je vieillis tellement bien dans ma tête, enfin, je veux dire, ça me fait tellement de bien d'avoir les 46 plutôt que les 20, comment je suis moins flippée, tout ça, que du coup, j'accepte bien de prendre cher, en fait, ça me dérange pas de prendre cher.
Il y a un passage dans votre livre, enfin, que je vais mal citer parce que c'est de mémoire, au début, là, où vous dites, le corps, je m'en fous, enfin, il y a un truc, vous voyez
ouais,
ce
que... Bah, oui, le corps, je m'en fous, et pour le partenaire et pour moi-même, c'est-à-dire que je suis trop flottante. J'ai un peu le fantasme du corps sans organes de moult zinzin, quoi. Donc, c'est pas quelque chose d'important, l'enveloppe. Après, c'est pareil chez les partenaires. Je suis passée chez des hommes qui avaient des âges ou des physiques hyper différents. C'est pas quelque chose qui m'importe. Donc, du coup, avec moi, c'est pareil. Je fais en sorte de me plaire un minimum syndical quand même, mais ça passe plutôt par les habits et le maquillage que par un rapport développé au corps.
Et qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire, vous ?
Je pense que c'est les seins. Je pense que c'est le décolleté en général, ouais. C'est
ouais, un attribut de féminité.
Oui, ouais. Oui, je pense que c'est le décolleté pendant longtemps. Enfin, je réfléchis au truc. C'est d'abord quelque chose que je porte beaucoup, le décolleté. Et en plus, je crois que si je suis en situation de séduction, j'aurais tendance à mettre du pigeonnant. Donc oui, c'est les seins.
Est-ce que vous auriez aimé être un homme ?
Ah, pas du tout. Mais pas du tout. Ça, d'ailleurs, je crois que quand j'ai découvert l'histoire de Freud avec l'envie du pénis, je suis vraiment tombée de l'armoire et je continue de tomber de l'armoire. J'ai beaucoup de mal.
C'est-à-dire,
avec... c'est-à-dire que la femme qui serait incomplète parce qu'elle a l'envie du pénis, je pense que ça, enfin, c'était bien gentil dans sa tête.
Ça tient pas la route.
Non, pour moi, ça tient pas la route du tout, mais vraiment pas du tout. Non, j'ai jamais. Et je suis, j'ai toujours été consciente que c'était plus facile d'être un homme dans notre société qu'une femme pour plein de trucs.
Mais dès l'enfance, vous avez eu conscience de ça ?
Dès l'enfance, oui, ouais. oui, parce que le petit voisin était beaucoup plus libre que moi, tout simplement. Mais jamais j'ai envié la place de l'homme parce que les attributs virils ne m'intéressent pas, les activités genrées garçons ne m'intéressaient pas. Donc non, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça.
Dans votre livre, d'ailleurs, je rebondis, vous parlez beaucoup de la France. Moi, j'ai à peu près le même âge que vous, donc la France des années 80, 90, quand on regardait Cocorico Cowboy, Stéphane Collaro, tout ça, toute cette France imprégnée en fait de domination masculine et de sexisme
bien gras.
Ouais, et qui était vraiment qui allait de soi.
Ouais.
Vous avez l'impression que ça a évolué, ça ?
Ça va quand même un petit peu mieux, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu cette histoire de sketch de Jean-Marie Bigard avec une femme violée dedans. Bon, après, ce qui est bien, c'est de voir que là, les spectacles ont été annulés. Enfin, il y a eu une réaction. À l'époque, il y avait Michel Leeb avec les Noirs et tout le monde trouvait ça super rigolo. Donc, on part vraiment de loin dans le entre le comic troupier, la gaudriole et le sexisme raciste. Ouais, on a un bon héritage des colonies. On est encore dans la, on n'est plus dans la fille du bédouin, mais on est quand même encore. Il y a du boulot.
Ouais, c'est pas loin. Et est-ce que vous auriez aimé être une femme très différente de celle que vous êtes?
Je crois pas, en fait. Non, mais bizarrement, je me rends compte pendant l'interview que je me sens plutôt bien, finalement. Non, je crois pas. Pendant longtemps, j'aurais bien aimé être une femme plus forte au sens de plus intello, plus indépendante aussi. Parce que matériellement, pendant longtemps, moi, c'était compliqué, vu que je fais pas un boulot qui rapporte des masses. Donc, j'avais un peu le fantasme des femmes... qui sont des RH ou je sais pas, qui portent des tailleurs et des talons, qui gèrent, qui managent. Mais ça, c'est quand j'avais 20 ans que ça me faisait un peu rêver. Après, j'ai des copines qui sont devenues comme ça, donc j'ai vu toute la difficulté, la charge mentale d'être une Wonder Woman. Mais en fait, non, ça va comme ça.
Ben, ça sera notre mot de la fin. Merci Chloé Delhomme.
Merci.
C'est la fin de cette émission. Elle a été réalisée par Benoît Thuvaud. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. Bonne soirée sur Nova.
Dans le genre.
Dans le genre. Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.